l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Laurence Jost-Linhart, professeur d'histoire-géographie au lycée Adrien Zeller de Boux-Villers, maire de Bosselshausen, à propos de la sortie du livre « Kaddish pour un prof » publié aux éditions Secrets de Pays. Laurence Jost-Linhart, bonjour.
Bonjour.
Il est là, il est sorti après des années et des années où vous avez effectué différents travaux avec vos élèves. Ça avait commencé par une vidéo, on y reviendra un peu plus tard. Le livre est sorti. Alors déjà, première impression pour vous ?
C'est enfin la réalité, en fait. C'est depuis 2015. Je travaille avec les élèves sur les archives de notre lycée. Et donc là, enfin, voilà, c'est toutes ces recherches qui deviennent réalité et surtout qui, aujourd'hui, sont sorties du cadre du lycée et peuvent être transmises.
C'est une façon, justement, de faire vivre les protagonistes de cette histoire. Oui. Maurice Bloch, les différents élèves, c'est une façon de les amener à la postérité, en fait.
Oui, je pense que c'est très important, finalement, qu'on n'oublie pas. Et là, on est vraiment dans le travail de mémoire. Alors, c'est pas prémédité, c'était pas du tout prévu. Au départ, j'ai fait des petits résumés sur les quelques infos. Et puis finalement, c'est devenu presque des enquêtes policières, finalement. Et de redonner vie à des personnes, à des êtres humains qui s'étaient effacés des mémoires, qui avaient disparu dans des circonstances tragiques. Et aussi, finalement, pour les élèves, de pouvoir identifier des victimes. Voilà, des victimes qui étaient pas différentes d'eux, finalement, qui avaient fréquenté
le même établissement.
Exactement, le même établissement. Et finalement, avec cette discrimination, cette exclusion de la société, et qui, finalement, avec des jeunes qui avaient 15 ans, qui avaient 20 ans, donc ils sont très proches d'eux, en fait.
Vous, en tant qu'agrégé d'histoire, alors évidemment, j'entends, c'est le côté historique qui vous a porté certainement à mener toutes ces recherches. On y reviendra un peu plus tard sur la genèse de ce projet. Mais est-ce que, d'une autre façon, c'est le côté humain aussi, c'est que ce sont des gens qui font maintenant partie de vous, puisque vous avez fouillé dans les archives familiales de ces personnes, notamment de Maurice Bloch. Vous avez remonté ainsi la trame de leur vie jusqu'à leur assassinat. C'est l'historienne qui parle ou c'est simplement la professeure d'histoire qui a mis ses pieds dans les mêmes empreintes ?
Oui, donc c'est vrai que bon, il y a le côté historien. Alors c'est vrai que c'est assez rare que, je dirais, un simple professeur agrégé fasse des recherches, puisqu'en général, c'est plutôt les universitaires qui s'engagent dans ces travaux. Donc mon éditeur l'a en effet souligné en disant ça arrive pas très très souvent. Et puis deuxième aspect, c'est en effet l'émotion. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de redonner vie à des personnes. Maurice Bloch, je passe presque tous les jours à côté du Stolpersteine, ouais, qui est devant le lycée. Et finalement, je ne veux pas dire que c'est devenu un membre de ma famille, ce serait un peu prétentieux, mais c'est un collègue, voilà, c'est quelqu'un de très proche. Et aussi les élèves, hein, moi j'ai beaucoup d'émotions en fait à évoquer ces parcours. Et donc beaucoup d'humanité. Et puis c'est aussi, c'est ce que, en tout cas, je ressens, c'est toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Alors je dirais malheureusement par rapport à la Shoah, mais en même temps beaucoup d'humanité. Donc là, mon livre est déjà arrivé en Israël. Il y a eu des commandes, donc j'ai des retours de membres de la famille, notamment de Samuel Rotkopf avec le grand rabbin Jacques Dreyfus. Voilà, donc qui finalement me font des messages de compliments et en même temps d'avoir redonné vie à un membre de leur famille. Voilà, donc il y a cet aspect pour moi qui est très très important, et je l'avais déjà dit en fait quand on a posé les Stolpersteine à Invillers et à Boux-Villers. Mais le livre, pour moi, c'est concret. Voilà, c'est mon œuvre, entre guillemets. Ouais. Même si, bien sûr, j'ai été beaucoup aidée par les élèves. Mais c'est qu'on les oubliera plus jamais maintenant. Voilà, donc ça, c'était vraiment essentiel pour moi.
On va revenir donc à la genèse de ce projet qui a commencé par un travail scolaire avec vos élèves sur les traces de victimes juives locales du nazisme, jusqu'à ce que vous tombiez sur les archives du lycée. Alors, qu'est-ce que vous aviez trouvé à ce moment-là? Et c'est sur ce travail qu'a démarré après le projet du film documentaire jusqu'à ce livre aujourd'hui qui est sorti, Kaddish pour un prof.
Oui, c'est la découverte finalement de documents qui ont fait démarrer cette histoire. C'est notamment les courriers émanant des autorités nazies mettant en place le Judenrein, donc une Alsace sans juifs. Et des courriers arrivés dans l'établissement, le collège de garçons à l'époque, et demandant donc de recenser... Les personnels juifs et les personnels trop francophiles, c'est la terminologie nazie, ouais. Hein, ce n'est pas la mienne évidemment, et d'avoir les réponses. Voilà, on a eu la chance en fait d'avoir le courrier de demande et le courrier de retour, et donc avec le nom de Maurice Bloch et le nom de Max Guggenheim. Et là, voilà, moi, c'est évidemment la fibre historienne qui a fait que j'ai voulu savoir ce qu'ils étaient devenus, bien sûr. Et puis ensuite, face à la disparition de Maurice Bloch dans le centre de mise à mort d'Auschwitz, de voir finalement si d'autres juifs liés au lycée avaient été aussi concernés par la Shoah. Et là, c'est vrai que les archives du lycée ont été le point de départ. Et puis ensuite, ça a été le site de Yad Vashem, le site du mémorial de la Shoah de Paris, qui ont permis progressivement de trouver des informations. Et c'est vrai que je me suis inscrite en fait dans les voyages d'études à Auschwitz avec mes élèves. Et à partir de là, finalement, j'ai aussi côtoyé à travers les restitutions, mais aussi après les stages d'après-voyage au mémorial. Donc là, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de connaissances sur le sujet. C'était un sujet que je ne maîtrisais pas, véritablement, bien sûr. Et donc là, envie d'en savoir toujours plus et d'essayer, à travers ça, de retrouver le parcours de vie.
Vous avez beaucoup impliqué vos élèves dans l'épluchage, si j'ose le mot, de ces archives, que ce soit familiales, municipales. De quelle façon, eux, ils ont pris ce projet, ils ont porté ce projet, jusqu'où est-ce qu'ils l'ont mené, ils se sont investis, ils se sont identifiés peut-être, parce que ce sont des élèves, un professeur, qui étaient dans les murs de leur établissement scolaire.
Oui, c'est vrai que c'est pas forcément facile de travailler sur des archives administratives. C'est pas très intéressant, entre guillemets. Mais à partir du moment où finalement on avait identifié un certain nombre de noms, ils ont dépouillé, donc il y a eu 3 dépouillements par les élèves. Moi, j'en ai fait un dernier, un quatrième. C'était en effet une quête d'informations. À chaque fois qu'il trouvait le nom, le prénom, c'était des informations qu'on glanait. Voilà, petit à petit, on a trouvé parfois très très peu d'informations sur certaines enveloppes. Ils ont dépouillé les enveloppes de 1919 à 1940, c'est-à-dire la période pendant laquelle Maurice Bloch est professeur au collège de garçons. Et donc là, évidemment, il nous manquait, il y avait des trous, il y avait des infos qui manquaient. Mais progressivement, on a refait plusieurs fois pour trouver des informations. Et puis, on a essayé, en effet, ça permet aussi de mettre en valeur des compétences des élèves. Ils ont aussi été sur les sites de Yad Vashem, ils ont été sur le site des archives départementales. Donc, finalement, aussi des outils de recherche, la recherche documentaire. Donc, voilà, c'était un travail, en effet, scolaire, mais qui dépassait. Alors c'est clair qu'il y a eu une identification de mes élèves face à ces jeunes, à cette période, avec les photos de classe.
De quelle façon vous avez retranscrit d'ailleurs toutes les informations que vous avez trouvées dans votre livre, que vous avez écrit telle une enquête, qui est réellement une enquête, jusqu'au destin tragique des protagonistes? Comment est-ce que vous avez procédé?
J'ai, en fait, toutes ces victimes, elles étaient totalement tombée dans l'oubli. L'histoire locale, moi je ne savais pas, je suis au lycée depuis 2003, je n'avais aucune connaissance qu'il y avait eu des victimes de la Shoah, aussi bien sur Bouxwiller, Ingwiller et sur d'autres villages autour. Et à partir du moment où on a commencé à trouver beaucoup d'informations, il me semblait nécessaire de sortir du lycée, de le diffuser. Et moi j'avais fait des petites compilations, voilà, des petites synthèses, mais je suis allée beaucoup plus loin et... En fait, dans cet ouvrage, j'ai visé deux publics, entre guillemets. L'histoire locale doit être connue des habitants d'un territoire. Ça me semble essentiel pour comprendre ce qui s'est passé, puis aussi comprendre, je dirais, l'actualité. Donc c'est pour ça que finalement, moi, je m'étais lancée dans le cadre de langue régionale d'Alsace. On avait des cours à un moment donné dans l'histoire locale et j'ai fait un cours sur la communauté juive du pays de Hanau, parce que c'était une part très importante de la population. Et puis, deuxième public, évidemment, c'était les familles. Voilà, ça me paraissait essentiel que les familles puissent savoir finalement ce que leurs membres, ce que leurs proches étaient devenus.
Vous avez rencontré justement des familles depuis l'édition de ce livre. Vous avez eu des retours?
Oui, donc par rapport à Bouxwiller, j'ai côtoyé toutes les familles. Voilà, donc Maurice Bloch, c'est la famille Orwiller. Samuel Rotkopf, donc c'est le grand rabbin Jacques Dreyfus, avec lequel je suis en relation depuis très très longtemps. La famille Joseph, juste avant la pose des Stolpersteine. Voilà, donc il y a un lien maintenant avec ces familles. Et pour Ingwiller, bien sûr, avec Michel Lévy, qui a eu plusieurs grands-parents qui ont été victimes de la tragédie de Guéry, et quasiment toutes les familles. Voilà, donc en fait, c'est des liens aujourd'hui, et j'ai encore beaucoup à faire, puisqu'il faut que j'aille, il faut que je continue. Je suis pas sûre d'avoir encore trouvé toutes les victimes. Il y a encore un élève du lycée sur lequel on n'a pas encore travaillé, parce que ça prend beaucoup de temps, hein, c'est très chronophage. Et en tout cas, là, je veux arriver à cette exhaustivité. Bon, avec les garçons, c'est facile, ils portent le même nom de famille.
Oui.
Les filles, c'est un peu plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué
parce qu'évidemment, elles ont changé de nom. Et donc là, ça, c'est quelque chose sur lequel je veux continuer. Hein. J'ai déjà beaucoup d'idées pour la rentrée 2022. Donc, d'avoir cette liste exhaustive. Et puis après, je veux aussi travailler sur des villages aux alentours où il y a eu aussi des victimes. Il me reste en fait un registre de classe... enfin par ordre alphabétique des élèves, entre 1885 et 1921. Donc celui-là, c'est ce que je vais continuer. Voilà, je vais continuer à dépouiller. C'est un peu compliqué parce que les secrétaires de collège n'écrivent pas toujours très très bien. Et puis une partie avec l'histoire de l'Alsace, c'est en allemand et en gothique. Allemand. Voilà, donc c'est un peu... Voilà, mais en tout cas, ça, c'est ce que je veux faire avec les élèves. Je pense en le photographiant. Enfin voilà, on va essayer de trouver, parce que finalement, on a affaire à des archives qui sont fragiles. Il faut les préserver. Elles sont pas encore versées aux archives d'art mental, mais elles sont toutes inventoriées. Voilà, les élèves ont fini l'inventaire. Ils sont en train de finir de photographier et d'établir un registre qui prochainement sera mis en ligne pour que les familles puissent accéder à des copies, à des bulletins. Alors évidemment, il n'y a pas que des bonnes notes, hein. Faut bien être réaliste, mais ça fait partie de la vie. Voilà, donc ça, il me reste encore beaucoup à faire. Et pour les élèves, je pense que c'est important aussi que, à travers, en tant que prof d'histoire, c'est pas toujours facile en fait de faire passer un cours, hein, voilà. Mais là, c'est un moyen. Moi, je fais pas l'histoire de l'Alsace de façon magistrale. On peut faire l'histoire de l'Alsace avec simplement nos registres de classe, avec la colonne confession, voilà. Et on explique aux élèves pourquoi. Catholique, c'est des fois CATH ou des fois KATH. Et on va rentrer en fait dans l'histoire par cette voie.
Laurence Jost-Linhart, vous n'êtes pas alsacienne, vous n'êtes pas juive. Et pourtant, vous portez haut cette histoire du judaïsme rural ici en Alsace. Pour vous, ça fait sens aujourd'hui, vous vous sentez d'ici et en lien étroit avec la communauté juive.
Oui, c'est vrai hein, que je n'ai pas... C'est souvent la question qu'on m'a posée, en fait, pourquoi travailler sur ce sujet en me demandant, certaines personnes pensaient que j'étais juive, non, je ne le suis pas. C'est vrai que finalement, je suis rentrée progressivement dans, je dirais, la communauté juive, hein, au sens très très large. C'est vrai que j'ai beaucoup d'affinités, finalement, aussi avec... des proches, voilà, de victimes, mais aussi d'autres personnes. Et c'est vrai qu'il y a finalement une reconnaissance de mon travail par des familles, par des membres de la communauté juive. Et je sens finalement que c'était peut-être aussi un manque, finalement, peut-être qu'on n'avait pas abordé, ou que c'était peut-être pas facile non plus pour des Alsaciens d'aborder cette période de l'histoire. C'est vrai que je suis aussi mère et dans mon village de Bösholzhausen, quand j'y suis arrivée avec mon mari en 1999, et on voyait ces clans, ces tensions, avec des gens, des enfants de la troisième génération qui ne se parlaient pas, qui ne jouaient pas ensemble. Et moi, j'avais du mal à comprendre ces clivages. Et sur la durée, j'ai compris, j'ai découvert quelques documents... à la mairie, que je me suis empressée de retirer d'ailleurs, hein, que je verserai aux archives départementales, avec des listes de SS et de SA. Et on voit que ces divisions ont perduré. Et je pense que là, à un moment donné, faut ouvrir la cocotte minute avant qu'elle explose. Oui. Et que les gens puissent vivre ensemble. Et je pense que c'est toujours un petit peu la question, mais je pense qu'il y a pas mal de livres, il y a des documentaires où finalement on est descendant d'un nazi, on est descendant d'un juif, on n'y peut rien, enfin c'est ainsi. Et pourquoi ces deux personnes ne se parleraient pas? Et je pense que ça, c'est vraiment le rôle de l'histoire, finalement. Et on n'est pas en 2022 responsable de ce qu'ont pu faire nos ascendants. Et après... j'entends parfois des personnes disant « moi, j'aurais été forcément de ce côté-là ». Je pense que c'est une question extrêmement compliquée. Je ne sais pas s'il faut protéger sa famille. Peut-être qu'à un moment donné, on fait un choix qui peut-être sera condamné 50 ans après. Mais sur le moment... Et ça, je pense que... Moi, c'est pas une question que je me pose. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Je ne sais pas. Oui, j'aurais sûrement aidé, mais voilà, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut accepter son histoire et je pense que l'Alsace a encore beaucoup à faire. Et la France, notamment par rapport à la période de Vichy. Voilà, donc ça, c'est une vraie difficulté et il est compliqué, dans certains domaines, de trouver des travaux d'historien.
Laurence Jost-Linhart, merci infiniment d'être venue nous parler de ce livre « Kaddish pour un prof » donc qui met en lumière le collège de Bouxwillières jusqu'à ses victimes de la Shoah. Un livre très bien renseigné, très bien illustré, très beau travail. Il est là, on l'a, il est tout beau, tout chaud. Merci et très longue vie, évidemment, à ce livre qui, vous le disiez, est déjà parti jusqu'en Israël. Merci à vous.
Merci, bonne journée.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.